Radio Stable.
Morning Edition from NPR News.
Sí, sí, Santito de House.
Radio de Rosana Pipari.
Lo que se reproduce aquí en la radio.
France Inter, le 18-20.
Avant, j'avais beaucoup de problèmes avec ma famille. Pour eux, ce n'était pas acceptable qu'une fille soit danseuse.
Et c'est là que nous allons dans l'escale reportage d'un jour dans le monde. Nous sommes au Maroc, faisant du hip-hop avec Nabil Ayouch, notamment le cinéaste. Vous comprendrez pourquoi dans un instant. Nous serons dans le quartier de Sidi Moumen, sous les radars, et Florence Paracuelos, ou comment une tricherie au criquet devient une véritable affaire d'État. Le Monde selon Trump, saison 2. Et Grégory Phillips qui revient forcément sur cette manifestation anti-armes. Mais ces jeunes gens vont-ils réellement faire bouger les lignes? 18h55, Jean-Marc Fourmet, Le Monde à l'envers, nous explique pourquoi on ne se disputera pas à table ce soir entre Erdogan, le président turc, et l'Union européenne. Mais tout de suite, une élection pour dire quoi en Égypte, puisqu'il n'y a pas d'enjeu. On voit ça tout de suite. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Es. Un jour dans le monde.
On vote donc aujourd'hui en Égypte. On vote pendant trois jours entiers. Pas de vague, pas de suspense non plus. Rien ne peut empêcher le président sortant, Abdel Fattah al-Sissi, de l'emporter. S'il a un opposant, c'est vraiment pour le décorum. Bonsoir Claude Guibal.
Bonsoir Fabienne.
Du service étranger de France Inter. Vous avez surtout couvert, habité l'Égypte pendant une grosse quinzaine d'années jusqu'à la Révolution. Je le disais, pas d'enjeu. Si, il y a quand même un enjeu. C'est celui de la participation.
Oui, cette participation dont on devine qu'elle va être assez peu importante, elle n'avait pas été énorme d'ailleurs lors du précédent scrutin.
C'est pour ça qu'on avait rajouté un jour de vote.
On avait rajouté un jour de vote à l'époque, et pourtant lors de ce précédent scrutin, le mandat d'Abdel Fattah al-Sissi était beaucoup plus enthousiasmant pour la population. Il promettait sécurité, retour à la prospérité économique. Cinq ans plus tard, la situation est très mauvaise. Il ne bénéficie plus, même s'il a toujours un taux de popularité important. Mais c'est l'enthousiasme dont les Égyptiens avaient fait preuve à l'époque est très très loin d'être présent. Et donc aujourd'hui, l'abstention, effectivement, ça va être la clé de cette élection.
Mais vote raté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, élu avec moins de 80% à cause de l'abstention, c'est raté pour lui, c'est ça? Comment on peut dire ça?
Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on le voit déjà ce matin dans les premiers rapports qui ont été faits. On revient aux bonnes vieilles méthodes, j'allais dire, de l'époque Moubarak, où les entreprises publiques, qui sont pour la plupart dirigées par d'anciens militaires, envoient comme ça les ouvriers en masse, en bus, aller voter, les syndicats qui appellent à voter, parce qu'il faut que les gens aillent voter, il faut donner une légitimité à Abdel Fattah al-Sissi, au moins visible comme ça, à défaut, voilà, pour pas que ça s'appelle un plébiscite.
Alors on va revenir évidemment sur son Égypte à ce président Sissi, ce qu'il en a fait, puisqu'il compte faire derrière. Juste un mot, Claude, et rapidement, je vais dire hélas, sur l'autre candidat, le seul autre candidat qui est en face de Sissi, qui a même enlevé de sa page Facebook très rapidement son appel au vote pour Al-Sissi, c'est dire jusqu'à quel point tout ça est cousu de fil blanc en fait.
Oui, alors ce rival, hein, qui n'en est pas un puisque c'est un supporter, effectivement, c'est un obscur politicien, c'est le président d'un petit parti libéral, Al-Rad. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les candidats qui se sont présentés ou qui ont osé émettre l'intention de se présenter contre Abdel Fattah al-Sissi ont été soit arrêtés, soit violemment intimidés. Et donc, début janvier, il n'y avait pas de candidat face à Abdel Fattah al-Sissi. Et lorsque le vice-président américain Mike Pence s'est rendu en Égypte, il a fait savoir à Abdel Fattah al-Sissi que Washington allait soutenir sa candidature, mais qu'il fallait quand même que ça ressemble à une élection. Et donc, en quelques jours, ça a été même assez croquignolesque, qu'il a fallu décoter un candidat. Ceux qui ont été invités à le faire n'ont pas voulu le faire, et puis on a dégoté effectivement Moussa Moussa, voilà, j'ai du mal à trouver son nom tellement il n'est pas connu en Égypte
et ne le sera plus
probablement
dans 3 jours.
Et donc sur sa page Facebook,
jours.
Voilà, il a dû enlever l'appel à voter pour Sissi qui était encore présent jusqu'au matin de la déclaration de sa candidature la veille de la clôture de ses candidatures.
Il y a eu cette phrase à la télévision égyptienne, c'était le 20 mars, donc c'est tout récent, d'Al-Sissi qui dit à qui on demande quand même si un scrutin pluraliste serait pas meilleur. Il répond, l'Égypte n'est pas prête pour un scrutin pluraliste.
Oui, il a aussi dit, mais c'est quand même pas de ma faute si j'ai pas de candidat en face. Voilà.
Est-ce qu'on vote dans un pays calme, dans un pays qu'on dirait pacifié ou pas?
Alors, pacifié, je ne sais pas si c'est le terme. En tout cas, il faut avoir bien conscience que c'est, imaginez, vous êtes égyptien. 2011, il y a cette révolution qui vient vraiment mais bouleverser le pays, bouleverser toutes les structures de l'État. On fait tomber Moubarak, qui est quand même, qu'on croyait immuable. Et puis, à la suite de ça,
ça, il y a toute cette phase de chaos, effectivement chaotique, où on ne sait plus qui gouverne, quoi. Les villes sont paralysées à cause des manifestations. L'insécurité est énorme, puisque la police, qui était quand même au centre de la colère de cette révolution, la police s'est cachée. On a ouvert les prisons, donc il y a une insécurité énorme. Les Égyptiens n'en peuvent plus, ils sont épuisés. L'économie ne fonctionne plus. Pour aller ouvrir votre magasin qui est à 6 km de chez vous, il vous faut 3 heures de voiture. Vous savez pas si vous allez avoir les moyens de payer vos employés. Donc quand Sissi arrive et dit, moi, voilà, allez, moi je remets tout le monde au calme et tout ce chaos né de la révolution, c'est fini. Eh bien voilà, c'est ce que les Égyptiens attendaient. Donc Sissi, avec une répression terrible, a réussi à ramener ce semblant de stabilité. De là à dire que c'est un pays pacifié, il y a beaucoup de colère qui monte. Il y a quand même une colère aussi économique. Et puis, il y a une situation qui est quand même assez insécurisée au niveau des attentats.
Alors on va y venir, c'est quoi la réécriture ? La révolution 2011 pour Al-Sissi, c'est quoi en fait ?
Écoutez, la révolution de 2011 pour Al-Sissi et pour beaucoup d'Égyptiens aussi, il faut le dire, c'est ce qu'on appelle en arabe le fawda, le chaos. Moubarak a tenu pendant des années en disant d'ailleurs que, comme ça, c'est anawala le fawda, moi ou le chaos. Pour les Égyptiens, cette révolution, pour beaucoup d'Égyptiens, ça a été entre guillemets le début de la fin parce que tout le système a basculé, tout a bougé. Donc pour Abdel Fattah al-Sissi, ce qu'il dit, c'est que la révolution, finalement, c'est un complot de l'étranger. Alors là, il faut savoir que là-dessus, il joue beaucoup sur la fibre nationaliste égyptienne. Il faut savoir que pour les Égyptiens, quand il se passe quelque chose comme ça qui nuit à l'image de l'Égypte, c'est forcément un complot de l'étranger qui vise à miner la grandeur de l'Égypte, qui sinon serait le pays le plus prospère du monde, etc. Et tout. Donc c'est un petit peu l'accusation, toujours un petit peu facile, mais là qui prend. Alors on a accusé les Américains d'avoir soutenu Mohamed Morsi, le président islamiste, pour empêcher l'Égypte de se développer et d'être la plus influente sur la scène proche-orientale. Donc c'est une accusation finalement à laquelle se rallient un certain nombre de gens qui voient là la révolution comme effectivement une mauvaise étape de la vie de l'Égypte.
Une mauvaise parenthèse même donc, et refermée de ce que je comprends quand je vous écoute.
Alors refermée refermée pour certains qui ont eu très peur, parce qu'ils ont eu très peur pour leurs prérogatives, c'est les gens de l'ancien régime notamment, refermée également par une partie des Coptes qui, et on les comprend, les Coptes, c'est les chrétiens d'Égypte, 10% de la population, qui ont eu peur avec l'arrivée au pouvoir d'un président islamiste, ils ont eu une terreur, mais qui est fort légitime, et qui donc voient dans cette révolution un moment très difficile pour eux. Et puis il y a toute cette jeunesse libérale, il y a quand même tous ces gens qui ont été sur la place Tahrir, il y a quand même eu des millions de personnes, et bien eux, face à ce qui s'est produit par la suite, c'est-à-dire l'insécurité l'instabilité au quotidien dont je vous parlais, puis tous les jeunes qui se sont retrouvés derrière les barreaux, ces jeunes Égyptiens que vous avez admirés, ils sont aujourd'hui des centaines derrière les barreaux, il y a une forme de résignation, de résilience, où on se dit bon, voilà.
Mais est-ce qu'on regrette la révolution, Claude ? Est-ce qu'on regrette la révolution ?
Bien sûr qu'il y en a qui regrettent la révolution, mais qui ne peuvent même plus le dire. Est-ce que Abdel Fattah al-Sissi a dit, il y a quand même un mois, c'est qu'il ne permettra pas, ce sont ses mots, que ce qui s'est passé il y a 7 ans ne se reproduise. Il a dit exactement cela, il a dit que au péril de sa vie, il l'empêcherait qu'on nuise à nouveau à l'avenir et à la stabilité de l'Égypte.
Alors je voudrais qu'on aille faire un tour justement, Claude, dans les rues du Caire, grâce à Christian Chesneau qui est là pour France Inter, essayer de comprendre un peu cette nouvelle Égypte que veut Sissi, qui se traduit par de grands travaux, on va l'entendre, mais pas seulement, on parle aussi d'une réforme de l'administration, une réforme aussi de l'islam. On écoute Christian et on se retrouve dans une seconde.
C'est la première fois depuis Nasser qu'un président veut changer aussi radicalement le visage de l'Égypte. Un développement à marche forcée. Aux quatre coins du pays, les grands projets d'infrastructures se multiplient. Dans son ambition réformatrice, le président Abdel Fattah Sissi veut s'attaquer à une administration aussi inefficace que pléthorique, explique le politologue Tofik Aklimendos.
Le président est en train de superviser une formation de cadres, en train de créer une nouvelle élite. Il y avait un projet, par exemple, pour former les hauts fonctionnaires civils ou les fonctionnaires civils à l'Université française d'Égypte. Disons, il y a une crise du personnel politique égyptien et, sur le long terme, une nouvelle élite est en train de naître. L'Égypte est un pays qui va devoir créer pendant 20-30 ans 1 million de nouveaux emplois par an. Et ça va être un très fort argument pour l'autoritarisme pendant très longtemps. Donc là, ce sera croissance, croissance, croissance, sécurité, sécurité, sécurité. Oui, on est dans un scénario, bon, je ne sais pas si on le qualifierait de chinois ou de russe.
Le président Abdel Fattah al-Sissi veut reprendre en main les grandes institutions du pays, à commencer par El Azhar, qui est à la fois une université et la gardienne des dogmes du sunnisme. Le président égyptien aimerait couper l'herbe sous le pied des islamistes qui sont sa bête noire. Il voudrait notamment contrôler les prêches dans les mosquées pour éradiquer une rhétorique parfois radicale, confirme Rehri Shahrawi, directeur des études islamiques en français d'El Azhar.
Ça avance doucement. La chaire de mosquée, c'était accès libre à n'importe quel musulman qui connaît un petit peu le Coran et la tradition. Donc c'était quand même vraiment de la prêche, parfois radicaliste, parfois qui incite à la haine. Donc on voulait vraiment maîtriser ces mosquées, actuellement gérées par l'Azhar et par le ministère de Waqf. L'imam qui va monter sur la chaire pour prêcher le musulman le sermon de vendredi doit être formé à l'Azhar. Ça, c'est une condition sine qua non pour prêcher le musulman. Et donc ça, c'est un grand bas vers la lutte contre le radicalisme.
Le théâtre El Rawabat, dans le centre-ville du Caire, est un ancien garage transformé en lieu culturel à l'initiative du metteur en scène Ahmed El Attar. C'est un espace de création et de liberté pour les artistes contemporains. Ce soir, le dramaturge présente sa dernière pièce intitulée « Avant la révolution ». Pour Ahmed El Attar, l'Égypte a besoin de digérer le chaos politique des dernières années pour construire un avenir plus apaisé.
Tellement de choses sont passées, tout le monde est un peu étourdi. Le changement prend du temps. Le changement, c'est pas uniquement on change de président, on change de système, c'est pas ça. Le changement, c'est vraiment un changement de société. Et ça, ça prend du temps.
Parce que là, on a quand même le sentiment qu'il y a une espèce de choix cornélien ici en Égypte entre la stabilité et la liberté.
Pour qu'il y ait une stabilité qui reste, il faut de la liberté. Parce que la stabilité forcée mène forcément à une explosion quelque part. Je vois comment les gens se crispent, il faut leur soulager un peu.
Les gens se crispent, Claude Guibal, c'est le moins qu'on puisse dire. En effet, sur le plan des mœurs, par exemple, on avait beaucoup critiqué Morsi à l'époque où il était là, mais c'est quoi la différence entre Morsi et Al-Sissi?
Mohamed Morsi était un islamiste politique ouvert. Mm-hmm. Non, Abdel Fattah al-Sissi, il ne faut pas oublier qu'il a été nommé par Mohamed Morsi comme ministre de la Défense et il avait été jugé à l'époque comme tout à fait islamo-compatible. Alors il faut savoir qu'en Égypte, et c'était déjà le cas de Moubarak avant lui, il faut quand même donner des gages aux religieux et notamment aux salafistes. Il ne faut pas oublier non plus que les salafistes, par exemple, ont fait partie des premiers soutiens, des premiers à faire allégeance à Abdel Fattah al-Sissi. Donc il faut leur donner un certain nombre de gages sur le contrôle de la société. Donc là, il y a eu encore cette loi sur qui criminalise l'athéisme. Il y a une danseuse du ventre encore qui a été récemment condamnée pour atteinte à la pudeur. Voilà, ce sont tout un tas de petits indicateurs qui font que tant que on maintient une certaine forme d'islamisation de l'Égypte, il ne faut pas oublier quand même que l'Égypte, que la constitution égyptienne est basée sur la charia.
Nouvelle élite, nouveaux imams, racontait notamment Christian Chesneau, également et en creux pour essayer de lutter contre la radicalisation. Enfin, s'il y a une chose qui est claire, c'est que le défi sécuritaire, pour le coup, là, c'est raté de la part d'Al-Sissi. La grande plaie d'Égypte, pardon de le dire comme ça, c'est celle-là en ce moment.
Oui, il y a des zones qui sont insurrectionnelles, le Sinaï notamment, et le Sinaï, il ne faut pas oublier que c'est non seulement d'un côté la porte de Gaza, mais c'est aussi le canal de Suez, qui était la première source de revenus du pays. Donc il y a un groupe djihadiste là-bas, Wilayat al-Sinaï, qui est responsable de plusieurs attentats, des très très gros attentats, que ce soit contre l'avion russe il y a 2 ans, plus de 240 morts, là une mosquée, encore 300 morts il y a quelque temps. Donc ce groupe a prêté allégeance à l'État islamique. Et Abdel Fattah al-Sissi, qui avait promis le retour au calme, parce que ce retour au calme, c'est aussi le retour des touristes, etc. Eh bien, on le voit, alors, en tout cas, la méthode de répression sécuritaire n'a absolument pas porté ses fruits, et bien au contraire, très contre-productive, parce qu'elle s'est aussi appliquée à des groupes comme les Frères musulmans, qui du coup, en passant dans la clandestinité, beaucoup se sont radicalisés. Et aujourd'hui, on a une situation sécuritaire en Égypte qui est effectivement extrêmement préoccupante.
On n'a pas assez parlé, on l'a un peu évoqué, notamment avec Christian, mais pas également avec vous. Il y a un instant, Claude, l'économie égyptienne, qui est évidemment un pan très important. Le chiffre, moi, que je retiens, 40% de la population sous le seuil de pauvreté, ce qui est énorme.
Le 40%, c'était déjà le cas avant la révolution, avec une croissance à l'époque qui était de 6%. Et donc, depuis, tout ça n'a fait que se dégrader. Alors, il faut dire que Abdel Fattah el-Sissi a fait quelque chose d'assez courageux. C'est-à-dire que pour obtenir un prêt du FMI, 12 milliards de dollars quand même, il a dû engager un train de réforme qui était extrêmement compliqué. Il faut avoir conscience qu'en Égypte, un tiers du budget de l'État passait dans les subventions. Subvention du pain, subvention du carburant, c'était une somme énorme que ces amortisseurs sociaux, donc en les faisant sauter, le risque de déstabilisation sociale est effectivement très lourd. Et ça, Abdel Fattah el-Sissi y est allé de façon assez volontariste. Il a dû dévaluer la livre égyptienne, donc la laisser flotter. L'inflation depuis absolument délirante. À titre d'exemple, par exemple, dans le petit commerce où je faisais mes courses il y a 5 ans, mes voisins me disent aujourd'hui que le prix du panier moyen a été multiplié par 5.
Et un espoir que ces choses-là changent. Alors effectivement, on a entendu beaucoup de grands travaux, cette espèce de méthode qui a l'air d'être une méthode à l'ancienne, en fait, pour essayer de relever l'économie.
Alors c'est une méthode à l'ancienne, et puis c'est un vrai marqueur de l'Égypte. Il ne faut pas oublier que Nasser, en son temps, avec le grand barrage, Hosni Moubarak avec la deuxième vallée du Nil, ces grands projets, c'est des grands projets nationalistes. Ça permet de créer un roman national. Lui, ce qu'il a proposé, Abdel Fattah el-Sissi,
capitale.
Alors, c'est une autre capitale, c'était le doublement du canal de Suez, et comme ça, ça a entraîné la population à souscrire. C'est des souscriptions publiques, mais le problème, c'est que voilà, tout cela n'a pas porté de fruits. Les gens n'en ont pas vu, en fait, la couleur des bénéfices.
Encore,
des bénéfices
fou, ouais.
Et l'économie va très mal.
Claude Guibal, avec nous dans Un jour dans le monde, merci beaucoup. On commence à voter aujourd'hui donc en Égypte, et vous nous l'avez rappelé, ça durera 3 jours. Merci.
France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde ce soir, c'est au Maroc, dans un centre culturel du quartier Sidi Moumen, avec Nabil Ayouch notamment. Florence Paracolos passe sous les radars en Russie et en Australie avec une affaire de tricherie au criquet prise carrément très très au sérieux. Trump saison 2 et Grégory Phillips. Bonsoir Grégory.
Bonsoir Fabienne.
Greg, on a tous été très impressionnés par la manifestation au sujet des armes. C'est vous samedi, on attend la suite maintenant.
Oui, on attend la suite, et puis on a encore en tête quand même les discours de ces gamins. Je vous raconterai tout à l'heure l'histoire d'une petite fille qui a 11 ans, elle s'appelle Naomi, elle a pris la parole devant 800 000 personnes avec un discours qui, je pense, a marqué les esprits, et peut-être on verra l'histoire des États-Unis.
Et à tout à l'heure, Grégory, Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Vous êtes sous la table au dîner entre la Turquie et l'Union Européenne ce soir.
Comme vous y allez, la Syrie, les droits de l'homme, les motifs de fâcherie ne manquent pas avec la Turquie à l'occasion de ce dîner de travail en Bulgarie, même vous plaisantez. On va tout de même pas se fâcher avec la Turquie.
Mais non, on va pas se fâcher. Allez, Everybody's Coming to My House sur France Inter.
There's plants and trees. Think a closer inspection. If you get down on your knees. Now everybody's coming to my house, and I'm never gonna be alone. And everybody's coming to my house, and I'm never gonna go back home. I'm pointing and describing. And I can be your guide. The skin is just
Il s'appelle David Bayern et tout le monde vient dans sa maison. Everybody's coming to my house sur France Inter.
Hello.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Et Florence Paracuello sous les radars. Nous voilà en Sibérie pour démarrer sur les ruines fumantes du centre commercial Kemerovo, détruit par un incendie.
Oui, c'était un vaste complexe avec sauna, cinéma, restaurant, bowling. Il y avait beaucoup de monde hier dimanche. Le feu a pris dans un cinéma. Il a fait au moins 64 morts. C'est l'un des plus meurtriers de ces 20 dernières années. Cette femme, dans une vidéo diffusée par RT, raconte en direct qu'elle est en train de sortir du cinéma avec son fils, qu'elle a eu du mal parce que tout s'est éteint. Elle dit que le quatrième étage est totalement dans le noir, noyé dans la fumée. Les gens sont paniqués, les enfants pleurent. Il y en a beaucoup sur la vidéo. Au moins 9 ont perdu la vie. Les autorités locales parlent de nombreuses violations des normes de sécurité. Elles confirment qu'il n'y avait pas de signalisation en cas d'incendie et que certaines sorties de secours était fermé à clé dans le cinéma. C'est un drame de la négligence, dit aujourd'hui la déléguée aux droits des enfants auprès du Kremlin. De tels centres commerciaux, il y en a partout dans le pays, dit-elle aussi. Et plus globalement, des infrastructures vieillissantes qui datent parfois de l'ère soviétique et des règles de sécurité aléatoires. Une centaine de morts ces dernières années dans des incendies d'hôpitaux psychiatriques, 3 incendies depuis le début de l'année dans des chantiers navals et une base sous-marine de l'armée, 156 décès dans l'incendie d'une discothèque il y a 9 ans, face au péril du feu. La dernière décision politique, ça a été l'interdiction de jeter ces mégots de cigarettes par les fenêtres des trains et des voitures en marche. Là, évidemment, ça n'aurait rien changé.
Allez, on file en Australie, en beaucoup plus léger, Florence, avec cet énorme scandale qui fait la une de toute la presse.
Good evening. Australian cricket is tonight in crisis.
Mais oui, le cricket australien est en crise et tout le pays avec, parce que le cricket c'est sacré en Australie, que le capitaine de l'équipe nationale est un des personnages les plus importants du pays et qu'il s'est fait prendre samedi en flagrant délit de tricherie contre l'Afrique du Sud en plein match au Cap. Il a dû avouer, Steve Smith, avoir tenté de trafiquer la balle, cette balle qu'on lance au batteur de l'équipe adverse comme au baseball, mais là c'est encore plus compliqué, on comprend pas grand chose à ce sport ici en France, mais ce n'est pas Jean-Marc Faure en face de moi qui nous contredira.
4 ans en Grande-Bretagne, 1 an en Australie, j'y comprends toujours rien.
Très bien, alors c'est son coéquipier à Steve
6 ans
Smith.
D'États-Unis et le baseball, moyen.
C'est tout aussi compliqué. C'est son coéquipier à Steve Smith qui s'est chargé de la manip. L'Australie est alors en difficulté, 100 points derrière l'Afrique du Sud. Le coéquipier va dégoter un morceau d'adhésif dans les vestiaires. Il va recueillir des granules au bord du terrain et frotter la balle.
C'est quand même très artisanal comme truc. C'est
discrètement dans l'idée de modifier la trajectoire de la balle au moment du lancer. Pas de chance, une caméra le filme juste à ce moment-là sur le terrain. L'image est diffusée sur l'écran géant du stade et sur les télés du monde entier. L'attention des arbitres est attirée et tout le monde voit alors la pathétique tentative du joueur de planquer son adhésif en le fourrant dans son slip. La scène est rejouée en boucle depuis samedi en Afrique du Sud, en Grande-Bretagne, en Inde, dans toutes les nations du cricket. L'Australie ne parle plus que de ça, jusqu'au Premier ministre Malcolm Turnbull, sonné hier comme tous ses compatriotes.
We all woke up this morning, shocked.
On s'est tous réveillés ce matin choqués et déçus. Nos joueurs de cricket sont nos modèles. Et le cricket est synonyme de fair play. Comment notre équipe a-t-elle pu tricher de cette façon ?
A shocking disappointment.
A shocking disappointment. Pire que si Zidane avait mis un coup de boule en finale de la Coupe du Monde. Le cricket, c'est un sport de gentleman. Et en Australie, il est étroitement lié aux valeurs de la nation, au sens moral dont elle se prévaut. Pour l'instant, le capitaine Contri est suspendu. Ah bah. La fédération a ouvert une enquête, mais de toute façon, les Australiens ne passeront pas l'éponge, Fabienne.
Non, ou alors ils la mettront plutôt sur l'oreille. Alors ils la fumeront plus tard. Merci Florence.
France Inter.
Doha, Harare,
Jérusalem,
Mecca. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
C'est au Maroc que nous allons ce soir dans l'escale reportage d'Un jour dans le monde avec Nabil Ayouch, le réalisateur, vous l'entendrez dans un instant, qui sort en ce moment son nouveau film Razia. On a eu l'occasion d'en parler sur France Inter, mais c'est pas exactement pour ça qu'il nous intéresse ce soir. Bonsoir Stéphanie Wenger.
Bonsoir.
C'est dans le quartier de Sidi Moumen que vous nous prenez par la main. C'est de là que venaient, on s'en souvient, les terroristes de Casablanca en 2003. Depuis, on a essayé de faire des progrès, des programmes de relogement, de désenclavement et aussi de la culture. Un centre culturel est ouvert dans ce quartier de Sidi Moumen. Vous nous y emmenez, Stéphanie, avec précisément le cinéaste Nabil Ayouch.
Alors j'ai rencontré Nabil Ayouch en pleine promo de son nouveau film « Razzia au Maroc ». Il faisait alors la tournée des salles de cinéma à la rencontre de son public, ce qui explique sa voix cassée d'ailleurs. Au-delà de cette actualité, il insistait sur le succès du centre culturel créé à Sidi Moumen. Lui qui a grandi en France, à Sarcelles, et qui a beaucoup fréquenté la MJC de son quartier, il voulait que d'autres puissent goûter à une telle expérience.
Je pense que quelque part, je ne serais pas devenu réalisateur si j'étais pas passé par cette MJC. Ces gamins, ici à Sidi Moumen, on est en train de leur dire que la violence ne doit pas être une voie d'expression, mais on leur donne aucune autre voie d'expression. En 2003, les kamikazes qui ont commis les attentats de Casablanca sont partis de Sidi Moumen. Je suis persuadé que ces quartiers sont bourrés de talents. Je ne suis même pas persuadé, je les ai vus. Il faut juste leur donner la main, les accompagner et leur permettre de s'exprimer.
Un soir de semaine, 18h, il y a déjà du monde aux étoiles. Dans le hall, décoré des travaux des jeunes, des adolescentes discutent. Derrière la porte de la bibliothèque, quelques profils studieux sont penchés sur des livres. De l'étage descendent des rythmes de batterie et en face, c'est bientôt l'heure du cours de breakdance. Anas, un rappeur marocain, a créé Positive School, le département hip-hop du centre qui enseigne différentes disciplines, graffiti, rap ou slam. Quand lui a découvert le hip-hop en 2003, il n'y avait rien. Il veut que ce soit différent aujourd'hui pour les jeunes qui l'encadrent.
C'est le fait de prendre ce qu'il y a de positif dans le hip-hop et l'inculquer aux nouvelles générations et leur créer un espace où ils peuvent venir pratiquer cet art-là, ces disciplines-là, coachées par des professionnels. Et comme ça, on est sûr que ça ne sera pas une mauvaise expérience et ça ne va pas leur apprendre des mauvaises choses comme ce que j'ai vécu moi et ma génération.
Coiffée d'une casquette qui laisse dépasser quelques mèches, Samar est tout sourire. Elle a 19 ans, a rejoint le centre il y a un an pour se perfectionner en danse hip-hop qu'elle pratiquait auparavant toute seule. Aux étoiles, elle s'améliore bien sûr, mais il y a plus.
La communauté qui représente tous les membres de l'association, ça compte pour moi. Toutes ces choses qui font de nous une seule personne et qui nous donnent la force de continuer ensemble et de montrer aux autres ce que l'on peut faire. What we can do. Avant, j'avais beaucoup de problèmes avec ma famille. Pour eux, ce n'était pas acceptable qu'une fille soit danseuse. Mais finalement, ils ont compris ce que je faisais vraiment. C'était quelque chose qui me plaisait. Ils sont venus assister à ma compétition en août dernier. Ils ont vraiment beaucoup aimé.
En face, dans le studio, le cours de batterie s'achève. C'est bientôt l'heure de la répétition du groupe des enfants. Mehdi laisse la place, il range ses baguettes. Cela fait 2 ans qu'il a découvert et pratique cet instrument.
Sans le centre, je n'aurais jamais découvert cet instrument. Je ne pourrais pas le pratiquer. Il n'y a pas d'endroit où on peut disposer d'une batterie, apprendre, répéter. Donc sans le centre des étoiles, cela aurait été impossible pour moi. Oui, j'espère vraiment pouvoir devenir professionnel, faire de la batterie mon métier.
En tout, plus de 500 jeunes sont inscrits aux activités. L'abonnement coûte moins de 5 euros par mois. Un système de parrainage existe pour ceux qui ne peuvent payer cette somme. Le centre fonctionne grâce à la générosité de mécènes. Le rayonnement des étoiles va bien au-delà du quartier. 10 000 personnes l'ont fréquenté l'an dernier pour des concerts, des expos. Une grande fierté pour la directrice Sophia Armis.
On voit aussi qu'il y a des jeunes aujourd'hui, pas que de Sidi Moumen qui viennent, mais de tout Casablanca, voire même parfois de tout le Maroc pour certains événements. Donc ça, c'est pour nous des signes très positifs de l'évolution du projet. Et bien sûr, je ne parle pas de l'évolution humaine des jeunes qui sont là depuis le début, qui s'épanouissent, on voit leur personnalité changer au fil des ans, être plus confiants. Et même au niveau scolaire, leurs résultats s'améliorent. Ils sont de plus en plus impliqués dans leur vie scolaire et aussi dans leurs projets ici artistiques.
Beaucoup de choses ont changé dans le quartier, dans les têtes aussi. Shoaib, professeur de guitare électrique, coach également des groupes depuis quelques mois. Une issue inattendue pour le jeune homme venu pour la première fois ici pour une répétition avec beaucoup d'a priori.
Pour moi, avant, si tu me disais de venir jouer de la musique à Sidi Moumen, pour moi, c'était impossible. Parce que pour moi, Sidi Moumen, c'est un quartier populaire. C'est dangereux ici, il n'y a pas de sécurité. Mais quand je suis venu, j'étais bouleversé au terme positif. Parce qu'il y avait les gens, les familles qui ramenaient leurs fils. Ils sont toujours là, ils soutiennent leurs fils. Donc là, j'ai compris que la culture peut vraiment changer les gens, changer les mentalités. Et c'est pour cela que je me suis investi dans ce programme pour aider les jeunes aussi ici.
Les étoiles de Sidi Moumen brillent bien plus loin que Casablanca. Fin 2017, un centre a ouvert ses portes dans le quartier populaire de Beni Makkada à Tanger. Il compte déjà 150 inscrits. Cette année, l'ouverture de deux autres centres est programmée, à Fès et à Marrakech.
Stéphanie Wenger, dans le quartier de Sidi Moumen, tout près de Casablanca. Merci beaucoup.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Saintès.
I promise you, it's going to change.
Un jour dans le monde.
Et l'actualité en série le lundi. Trump, saison 2 et Grégory Phillips. Quel week-end passionnant, Grégory, vous avez eu et vous nous avez fait partager. Puis ça continue. Alors il y a une histoire d'expulsion aussi russe. Vous y reviendrez dans un instant. Ce sera dans le journal de 19h avec Sébastien Paour. Mais je voudrais quand même qu'on revienne ensemble sur cette énorme manifestation contre les armes ou pour le contrôle des armes en tout cas. Grégory, des enfants, de jeunes adultes, formidable. On a entendu beaucoup de moments très forts. Il y en a un qui vous a particulièrement marqué. C'est pas celui qui a le plus tourné sur les télés d'ailleurs.
Oui, sur les télés, on a vu Emma Gonzalez, cette jeune lycéenne de Parkland, qui est un peu la figure de ce mouvement Never Again. On a entendu aussi la formidable petite fille de Martin Luther King. Mais Fabienne, je vais vous faire écouter ce soir une autre petite fille. Elle s'appelle Naomi Wadler. Elle a 11 ans, élève en dernière année de primaire. Elle est venue sur la scène devant environ 800 000 personnes pour évoquer les victimes dont malheureusement on ne parle quasiment jamais parce que le quotidien des États-Unis c'est ça. Depuis le 1er janvier ici en Amérique, 145 enfants ont été blessés ou tués par balles, 614 adolescents. Écoutez Naomi, vraiment écoutez-la et on se retrouve juste après.
My name is Naomi and I'm 11 years old.
Je m'appelle Naomi et j'ai 11 ans. Je suis ici pour représenter Courtline Harrington. Je suis ici pour représenter Adia Pendleton. Je suis ici pour représenter Tanaya Thompson, qui n'avait que 16 ans quand elle a été abattue dans sa maison ici, à Washington, D.C. Je suis ici pour représenter toutes les filles africaines américaines dont la mort ne fait pas la une des journaux nationaux. Dont on ne parle même pas aux informations télévisées du soir. Je représente les africaines américaines victimes de violences par armes à feu, qu'on présente sous forme de statistiques plutôt que de les décrire comme des filles intelligentes, vivantes et qui auraient pu accomplir tant de choses. Je suis ici pour dire plus jamais ça.
Voilà, formidable mobilisation, Grégory, de tous ces jeunes gens. Après, la question à 1000 dollars, c'est celle-là. Est-ce que effectivement les lignes vont bouger? Est-ce qu'il va se passer quelque chose après ça?
Bah écoutez, évidemment, on l'espère pour eux, mais maintenant, faut que le pouvoir politique suive. On a l'habitude de dire, Fabienne, que Obama n'a rien pu faire en 8 années à la Maison-Blanche. Trump, lui, propose aujourd'hui d'armer les enseignants, du moins certains enseignants, et d'interdire les bump stocks, vous savez, ce petit dispositif qui rend les fusils semi-automatiques automatiques. Mais là, on est encore sur des petites mesures, et on verra si ces jeunes gens, ces lycéens de Parkland notamment, réussissent à entretenir cette mobilisation, à la transformer en force politique, par exemple, dans la perspective des élections de mi-mandat en novembre.
Voilà, les jeunes gens qui sont encore trop jeune pour voter. C'est bien ça peut-être aussi qui fait la différence, en tout cas pour l'instant. Alors Grégory, le président Trump, dont on a vu qu'il suivait tout ça d'ailleurs en jouant au golf, ce qui est assez baroque, lui, il a dû regarder là pour le coup avec plus d'attention 60 Minutes hier soir sur CBS, parce qu'il y avait ce fameux entretien exclusif avec la star du porno qui s'appelle Stormy Daniels, qui accuse le président des États-Unis d'avoir acheté son silence pour qu'elle taise la relation qu'ils ont eue ensemble pendant 10 ans plus tôt.
Oui, Oui, il a sans doute regardé cette émission, comme d'ailleurs 25 millions d'Américains. Meilleure audience pour 60 Minutes depuis la première interview d'Obama juste après son élection. C'est dire, alors ce matin, sur Inter, je vous racontais que l'actrice de films pour adultes, comme on dit ici, a non seulement été payée 130 000 dollars pour taire son aventure avec Trump il y a une dizaine d'années, mais aussi qu'elle affirme avoir été menacée par des inconnus. Voilà en gros ce qu'on retient de cet entretien. Ah oui, puis il y a quand même le récit de la deuxième rencontre entre la jeune femme et celui qui n'est encore qu'un magnat de l'immobilier et un animateur de télé-réalité. On est en juillet 2007. Stormy Daniels arrive dans un hôtel de Los Angeles pensant qu'elle va négocier avec Trump sa participation à l'émission The Apprentice, mais en fait non, Donald Trump regarde des documentaires animaliers.
Je me souviens quand je suis arrivée, il regardait l'émission Shark Week, la semaine des requins. Il m'a demandé de m'asseoir à côté de lui et on a regardé tout le documentaire qui parlait d'attaques de requins.
Ce n'était pas une réunion de travail ? Vous avez juste regardé Shark Week ?
Oui.
Avez-vous eu une relation sexuelle avec lui ?
Non.
Il voulait ?
Oui.
Mais comment le savez-vous ?
Il était assis à côté de moi. Il caressait mes cheveux, mes jambes. Il n'arrêtait pas de me dire combien ça avait été formidable la dernière fois.
Voilà, tout en regardant un documentaire sur les requins, mais tout va bien. Deux questions très très rapides, Grégory. Un, est-ce que Trump risque quelque chose réellement dans cette affaire ? Et puis deux, très honnêtement, qu'est-ce qu'il nous dit qu'elle raconte pas n'importe quoi, Stormy Daniels, hein ?
Ouais, alors toute la question de savoir si les 130 000 dollars versés par l'avocat personnel de Trump à Stormy Daniels 11 jours avant l'élection présidentielle américaine, 11 jours, sont oui ou non du financement illégal de campagne. Si oui, là c'est un problème. Et puis l'actrice porno racontait n'importe quoi. Eh bien, encore soumise à un accord de confidentialité, elle disait à deux reprises ne pas avoir couché avec Trump. Maintenant, elle affirme le contraire. Il y a une chose dont on est certain, c'est qu'elle a bien reçu cet argent. Comme le dit son avocat, il y a forcément une raison à cela. En attendant, Fabienne, Stormy Daniels poursuit sa tournée des cabarets de striptease américains. La tournée s'appelle Make America Horny Again. comment traduire ça ? Rendons l'Amérique plus sexy ou plus pleine
urbain.
De désir.
Voilà.
Et Stormy vient d'annoncer deux nouvelles dates, les 20 et 21 juin. Où ça, Fabienne ? Ici, à Washington.
Formidable. Grégory, vous suivrez ça évidemment pour nous parce que vous avez une conscience professionnelle qui vous honore. Merci beaucoup, Grégory. À très vite, à tout à l'heure, tiens d'ailleurs, dans le 19h.
Le 18-20. Fabienne Saint-Esse sur France Inter.
Le monde à l'envers de Jean Marfour. Jean-Marc, au moment où on se parle, Recep Tayyip Erdogan est à table, probablement, avec Jean-Claude Juncker et avec Donald Tusk, notamment.
On l'entendra dans le 19h tout à l'heure, je crois.
Voilà, absolument. Une réunion qui s'annonce, comment dit-on, tendue, en langage diplomatique, au moment même, donc, en ce moment même, les représentants de l'Union européenne rencontrent ce président turc. Les sujets de contentieux sont nombreux, les droits de l'homme, l'intervention turque en Syrie. Mais vous, vous dites, Jean-Marc, dans le monde à l'envers, que, eh bien, l'Europe ne prendra pas le risque de se fâcher tout rouge avec la Turquie.
Vous allez voir ce que vous allez voir. Ambiance houleuse, tendue, à couteau tiré. Officiellement, c'est chaud, ce dîner dans la zone balnéaire de Varna, en Bulgarie, sur la mer Noire. C'est juste au-dessus de la frontière turque. Au premier coup d'œil, c'est vrai, l'Europe est fâchée. Inadmissible, l'intervention turque en Syrie contre les forces kurdes, hier à Afrin, demain sans doute plus à l'est, à Tal Rifat ou à Manbij. Inadmissible, la dérive autocratique d'Erdogan depuis 2016. 55 000 opposants en prison, plus de 100 médias fermés d'autorité, etc. Les Européens le martel, c'est inadmissible. Mais bon, en fin de compte, tout ça, ils l'admettent. Ce qui les contrarie beaucoup plus, mais qui fait moins les gros titres, ce sont les ingérences turques dans la zone maritime située près de Chypre. De quoi s'agit-il ? Des nouvelles réserves en gaz en Méditerranée, dont une bonne partie dans les eaux de Chypre, donc de l'Union européenne. Le secteur a été baptisé Aphrodite. Tout un programme. Il y aurait là un stock équivalent à celui de la mer du Nord. Des milliards de mètres cubes de gaz. Il y a un mois encore, l'italien Eni et le français Total y ont trouvé un nouveau gisement. Et voilà-t-il pas que la Turquie vient d'empêcher un navire européen de se rendre sur zone. Officiellement parce qu'elle revendique une partie de Chypre, en réalité parce qu'elle veut protéger le gaz russe qui transite par son sol. Donc là, pour le coup, enjeu énergétique, l'Union européenne n'aime pas du tout. Alors cette fois, ça y est, on va se fâcher avec Erdogan. Non.
Et ben voilà, non, parce qu'on va pas se fâcher avec un monsieur qui nous rend service.
C'est
final.
Ça. D'abord, il s'occupe de la patate chaude. Pardonnez la formule, elle est triviale, mais c'est quand même ça. La patate chaude, ce sont les migrants. Il y a pile deux ans, mars 2016, l'Europe a passé un deal avec la Turquie. On vous renvoie les migrants qui arrivent en Grèce, vous les gardez chez vous, et en échange, on vous paye. Promesse de don, 6 milliards d'euros. En langage commercial, ça s'appelle externaliser. Ni plus ni moins, je ne veux pas régler un problème moi-même, je paye un sous-traitant pour le faire. Résultat, 4 millions de Syriens sur le sol turc, mais ils n'arrivent plus en Europe, le flux s'est tari, en tout cas par cette route-là. Cette externalisation a beaucoup plus de poids que le sort des Kurdes. Attendez-vous donc à ce que l'Europe honore ce soir son engagement avec un chèque de 3 milliards pour Ankara. puisqu'on parle de chiffres, causons aussi business. La Turquie, c'est le 5e partenaire commercial de l'Europe, avec des investissements en hausse et un marché d'avenir, puisque sur les 80 millions de Turcs, 2 sur 3 ont moins de 35 ans. Vous me voyez venir, c'est une mine d'or pour les entreprises de banques, de loisirs, de transports, de distribution d'eau, d'électricité, etc. Donc il n'est pas exclu que le président turc obtienne ce soir une révision favorable de l'union douanière avec l'Europe. Les affaires sont les affaires.
Mais oui, parce qu'il y a aussi du billard à trois bandes, comme on dit Jean-Marc, un calcul politique, voire géopolitique.
Écoutez, on peut le prendre par tous les bouts. Il y a une chose qui ne changera pas, c'est que la Turquie se trouve là où elle se trouve, c'est-à-dire entre l'Europe et le Proche-Orient, entre l'Europe et la Russie. Autrement dit, position géostratégique incontournable. En plus, malgré des contacts militaires avec la Russie, la Turquie reste dans l'OTAN, avec une base encore utilisée par les Occidentaux, peut-être pas pour longtemps, mais encore le cas, à İnşirlik, près de la Syrie. Il y a peut-être, enfin, un autre calcul de la part des Européens, parier sur l'après-Erdogan. Ça serait judicieux parce que le régime Erdogan ne durera pas éternellement et une grande partie de la population turque, en particulier dans les classes moyennes, rêve d'Europe. En résumé, se fâcher avec Erdogan, mais pas avec la Turquie. Je me hasarde avec un petit pari.
Allez-y.
Allez, il y aura peut-être des gros yeux et des gros effets de manche ce soir en Bulgarie, peut-être des menaces de rupture, mais il n'y aura pas de rupture. Et si je me fourvoie, Fabienne, c'est promis, demain soir, je reviens dire que les journalistes passent leur temps à se tromper.
À demain. De toute façon, Jean-Marc, merci beaucoup. On se retrouve dans un instant, juste après le journal de Sébastien Paour. Et puis le téléphone sonne, bien sûr. Tâchez de ne pas vous endormir, on va parler sommeil. À tout de suite.